Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans l'Épître aux Hébreux, une fois encore. Mon texte aujourd'hui est du Hébreux chapitre 10, et le texte est du verset 11 au verset 18. Et je voudrais vous parler de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Oh, quelle joie de pouvoir annoncer une œuvre accomplie, une œuvre achevée à l'égard des pécheurs tels que nous sommes de la part du Seigneur Jésus-Christ. En contraste avec les sacrificateurs qui le précédaient, comme nous avons vu, qui devaient chaque jour se tenir devant l'autel et offrir des sacrifices, mais Christ, par une seule offrande, a une fois pour toutes, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, payer la dette du peuple de Dieu le Père, et une fois que le péché est effacé, il ne restait que sa justice à imputer à ceux pour qui il est mort. Donc voilà, nous continuons ce thème ici dans ces versets. Comme dans le verset 10, avec lequel nous avons terminé la dernière fois, c'est écrit, c'est en vertu de cette volonté. Donc tout cela s'est passé selon la volonté souveraine de Dieu, que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Notons comment c'est écrit. Sanctifié et passé ici dans le passé. Et c'est en vertu de la mort de Christ que chacun des élus a été sanctifié dans la même offrande, dans le même endroit, dans le même sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, comme c'est écrit par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et maintenant, nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis sont devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà l'œuvre achevée de Jésus-Christ. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offense pour le péché. Si on n'avait pas d'autres passages dans les Écritures que ce que nous sommes en train de considérer ici, ça serait suffisant pour nous de savoir ce qui est la fondation même du pardon des péchés et la justification des pécheurs devant Dieu. Ce n'est pas dans les œuvres des hommes, ce n'est pas dans les traditions, mais c'est dans l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà le contraste alors que l'auteur aux Hébreux tire ici entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Bien sûr, l'Ancien était nécessaire. C'est ce que Dieu a ordonné à ce que ça sert comme image et comme type de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, mais sous la loi, il n'y avait pas de pardon de péché. C'est dans la patience de Dieu qu'il a accepté ses offrandes des animaux en attendant à ce que Christ vienne et qu'il accomplisse tout ce qui était écrit de lui. Voilà le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ici, c'est écrit dans le verset 11, « Tandis que tout sacrificateur était chaque jour, ou faisait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, chaque sacrificateur devait se tenir debout quotidiennement. Il n'y avait pas de chaise dans le tabernacle ou dans le temple où le sacrificateur pouvait s'asseoir pour dire « bon, c'est fini ». Donc, quotidiennement, chaque jour, les sacrificateurs devaient se tenir debout dans leur travail. Voilà la différence entre leur travail et l'œuvre de Christ achevée, parce que une fois que Christ a accompli son œuvre, il est monté au ciel où il est assis. Ça, c'est la preuve que l'œuvre est achevée, parce qu'il est maintenant assis où il intercède en faveur de ceux pour qui il est mort. Mais sous la loi, le travail des sacrificateurs continuait quotidiennement et les sacrifices aussi devaient être offerts à plusieurs reprises. Les sacrificateurs ne pouvaient jamais s'asseoir, mais en revanche, Jésus s'est assis à la droite de Dieu ayant terminé son œuvre de sacrifice pour le péché. Et c'est pourquoi nous lisons le contraste ici avec « mes sept ombres ». Par exemple, dans le verset 12, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Opposé à la pluralité aussi des sacrificateurs lévitiques, il y en avait plusieurs parce que chacun suivait son tour dans le sacerdoce, mais cet homme unique, Christ représentait comme l'unique sacrificateur devant Dieu, un seul sacrificateur et un seul sacrifice est fait une fois pour toujours. En contraste avec les sacrifices de l'Ancien Testament qui ne pouvaient pas cesser et en même temps ne pouvaient pas pardonner. Alors, voilà ce qui est significatif ici au sujet du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre. Cela montre que son œuvre est terminée. Il n'y a rien à ajouter à ce que Christ a accompli. Il y en a aujourd'hui qui pensent que oui, Christ est mort, mais c'est à nous maintenant, par notre foi, par notre décision, d'ajouter ou bien compléter l'œuvre de Christ, sinon ce n'est pas accompli. Voilà ce que beaucoup pensent, mais c'est dans l'erreur et c'est une erreur grave. Parce qu'imaginez que l'homme, par sa décision, doit en quelque sorte achever l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, c'est de la folie. Et ça va contraire à tout ce que nous avons ici. Cet homme, le Seigneur Jésus-Christ, dans le verset 12, lui, il est devenu un homme, mais il n'était pas un saint homme, il était le Dieu homme. C'était nécessaire que celui-ci soit en même temps Dieu et en même temps homme, selon ce que c'est écrit, par exemple, dans Isaïe, chapitre 7, et le verset 14, Isaïe chapitre 7, et le verset 14, cela a été prononcé dans l'Ancien Testament. C'est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, c'est comme ça que c'est traduit, mais dans l'hébreu, c'est voici une vierge. Deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est intéressant que jamais dans le Nouveau Testament, aucun des disciples ou ceux autour de Christ l'ont appelé Emmanuel. Ça, c'est le nom de Dieu le Père pour son Fils. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc, c'est ce que nous devons nous rappeler lorsque, ici, dans Hébreux 10, c'est écrit lui, ou bien cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'agit du Dieu homme. C'est nécessaire à ce qu'il soit Dieu, parce que c'est seulement Dieu qui peut satisfaire Dieu, mais en même temps, il devait être un homme, parce qu'il est venu représenter des hommes, et à leur égard, devait vivre et mourir comme substitut pour ceux que le Père lui a donné de sauver. Et son œuvre étant accomplie, c'était avec fidélité que Christ a vécu sa vie dans la perfection, ce qui était nécessaire à la loi, la justice de Dieu, selon chaque précepte de la loi, non seulement à la lettre de la loi, mais même l'esprit de la loi, en parole, en acte, mais aussi en esprit. Ça devait être une obéissance parfaite de Christ à cette loi. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis, la loi exigeait aussi la mort, étant substitué. Il devait mourir. Et tellement son sang versé à la mort, ce n'est pas simplement le sang versé, mais jusqu'à la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ainsi, une fois qu'il a accompli cette œuvre et qu'il est mort, et le sang a coulé de son corps, et il a recommandé son âme à son Père avant de mourir, disant, tout est accompli dans l'Évangile selon Jean. Alors, tellement cette œuvre satisfaisait Dieu le Père, que les faits étaient immédiatement, en même temps, le pardon des péchés et la justification, c'est-à-dire déclarer juste des pécheurs pour qui Christ est mort. Cela s'est passé bien avant notre existence. Ce qui signifie que si nous sommes un élu de Dieu, nous sommes un objet de la grâce de Dieu, et que Dieu le Père a ordonné notre salut par cette œuvre de Christ, et que Christ est venu en effet et a accompli tout ce qui est fait, nous qui sommes de ces élus qui vivons de ce côté de la croix, nous sommes nés dans ce monde, bien sûr pécheurs, et dans notre esprit, dans les ténèbres, mais des pécheurs déjà justifiés. Quand on appelle l'Évangile la bonne nouvelle, voilà ce que ça signifie. Que par cette œuvre achevée du Christ, tous les élus de Dieu en même temps et par le même moyen et par le même sacrifice ont été déjà justifiés, ordonnés depuis l'éternité, bien sûr, mais accomplis en ce moment où Christ est mort. Et lorsque l'Esprit maintenant vient et révèle Christ en nous, ce n'est pas à ce moment-là que nous sommes justifiés, non. C'est à ce moment-là que nous découvrons que nous avons été déjà lavés et déjà pardonnés et déjà justifiés par la mort de Christ. Voilà ce qui est significatif avec ce passage que nous sommes en train d'étudier. Voilà ce qui distingue ce message de même les messages de beaucoup qui se disent prédicateurs de grâce, mais ils sont en train de prêcher une grâce conditionnée. Bien sûr, il y en a qui disent, oui, c'est par l'élection que le pécheur est sauvé, mais l'élection n'est pas le salut. Il fallait l'œuvre de Christ. Et il y en a même qui ont dit, étant prédicateurs de grâce selon eux, que oui, Christ n'est pas bon pour tout le monde, mais il est bon uniquement pour les élus. D'accord? Ils prêchent cela. Mais pour leur demander, donc, s'il est bon pour les élus, est-ce que cela signifie alors que les élus étaient une fois pour toutes justifiés là à la croix? Et vous allez découvrir ces prédicateurs disent non, que ce n'est pas jusqu'à ce que l'élu est rendu à la croix que cet élu est justifié. Donc pour eux, les élus continuent encore sous la condamnation, même que Christ était déjà mort, jusqu'à ce qu'ils croient. Parce que vous ne croyez pas que cela est un autre évangile, et ce n'est pas ce que nous sommes en train d'étudier et lire ici. La justification à la croix, mes frères, je suis en train de vous dire, voilà le point essentiel dans la prédication de la grâce aujourd'hui. Et ce qui doit nous séparer de beaucoup qui se disent prédicateurs de grâce, mais leur compréhension de cette œuvre accomplie du Seigneur Jésus-Christ est fou. Et ils ne sont pas en train de clairement prêcher ce que dit les Écritures. Alors voilà l'importance du verset 12. Lui, notons bien, ce n'est pas mes paroles, mais c'est la parole de Dieu. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours, notons, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, l'œuvre étant accomplie. Et puis, pourquoi il est assis? C'est écrit pour toujours. Cela signifie qu'il n'y a plus rien à ajouter. Mais, ici dans le verset 13, c'est écrit en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Ça, c'est en effet un passage tiré des psaumes. Si vous regardez dans le psaume 110, et voilà ce que j'apprécie concernant cet épître aux Hébreux, parce que c'est fondé, c'est basé sur l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas comprendre le message du Nouveau Testament sans voir comment c'est fondé sur les Écritures de l'Ancien Testament. Et ici, dans Psaume 110 et le verset 1, Psaume de David, c'est écrit, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc cette œuvre de Christ qui devait achever a déjà été annoncée depuis l'Ancien Testament, comme nous avons lu la dernière fois dans ce même chapitre d'Hébreux 10, que dans le rouleau du livre, dans Hébreux 10, verset 7, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans le rouleau du livre, c'est-à-dire selon les Écritures, ça a été déjà annoncé, c'est Dieu qui a fait de lui ce sauveur victorieux et qui l'a soutenu à travers son humiliation lorsqu'il était un homme pour le recevoir de nouveau auprès de lui. Christ est depuis l'éternité. Mais un corps lui a été préparé. Nous avons vu ça la dernière fois aussi. Afin qu'il puisse offrir sa vie en offrande. Et donc, il règne. Voilà un autre point que je voudrais souligner ici, dans le verset 13. Est-ce que Christ est venu et puis il est monté au ciel et puis il attend à ce qui doit revenir pour régner? Voilà ce que beaucoup prêchent. Mais ici, dans le verset 13, il dit, en attendant, désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied.
c'est-à-dire qui règne maintenant et qui régnera. Le fait d'être assis à la droite de Dieu signifie qu'il règne jusqu'à ce que chaque ennemi est devenu son marchepied. Nous savons que le Seigneur a beaucoup d'ennemis, et je dois dire que même les élus nés dans ce monde sont nés dans l'infidélité. Dans nos pensées, dans nos esprits, nous sommes ennemis de Christ, et ça prend l'œuvre de l'Esprit de Christ de nous convertir, de convertir ses cœurs, afin que dans nos esprits et dans nos pensées, nous soyons réconciliés avec ce Christ qui a déjà été réconcilié avec son peuple par sa mort. Dans Colossiens chapitre 2, nous voyons cela à partir du verset 13. C'est écrit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alors, c'est clair que, bien sûr, nous étions les élus et nous sommes venus dans ce monde comme ennemis de Christ, mais c'est grâce à sa mort que nous sommes réconciliés. Donc, n'oublions pas, quand c'est écrit ici, dans le verset 13, en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marché, il peut être là, s'agit là des ennemis maintenant, mais qui sont élus et que dans sa grâce, il les appellera et ils viendront se soumettre à lui. Mais il y a d'autres ennemis qui doivent être soumis à sa souveraineté, qui doivent aussi devenir son marchepied, que ça soit le diable, que ça soit ce monde, que ça soit la mort même, tout doit être soumis éventuellement à Christ, que ça soit dans sa grâce pour le salut ou bien dans la condamnation pour ceux qui sont des fils de perdition. Nous voyons ça dans 1 Corinthiens chapitre 15 et les versets 25 et 26. 1 Corinthiens 15, le verset 25 dit, car il faut qu'il règne. Ouais, maintenant il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis, toutes choses est accepté. C'est-à-dire, toutes choses sont soumises à lui, mais lui, Christ, est toujours soumis à son Père. Ça, c'est le mystère de la divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tout est pour la gloire de Christ, mais Christ lui-même, en venant pour accomplir cette œuvre, est soumis en toute chose à son Père. C'est pourquoi nous ne devons pas nous ennuyer lorsque nous voyons les choses qui se passent maintenant dans le monde. Et le monde est perturbé, que ce soit par la guerre, que ce soit par un virus, que ce soit par la famine ou d'autres tragédies, toutes choses continuent sous le règne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre confiance. Et c'est pourquoi nous pouvons nous reposer en lui. Mais tout cela, en revenant dans mon texte, ici à partir du verset 14, notons comment c'est répété encore par une seule offrande. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Notons La seule offrande, c'était l'offrande de lui-même, Christ lui-même, en corps et en esprit, dans son âme. Le prophète Ésaïe parle de la souffrance de son âme, qu'il a souffert afin d'offrir sa vie à son Père. Et c'est pourquoi il s'est assis, parce que cette offrande, une seule offrande, était achevée et efficace pour rendre à Dieu le Père la satisfaction nécessaire pour que Dieu soit juste tout en justifiant les pécheurs pour qu'il est mort. Et puis, ici dans les versets 15 à 17, voyons encore comment tout cela est basé sur les Écritures dans l'Ancien Testament. Ici, quand c'est écrit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir lui dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, il est en train de citer, et nous allons regarder ce passage dans Jérémie, il est en train de citer un passage dans le prophète Jérémie et le chapitre 31 et du verset 31 à 34 où c'est écrit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » Cela démontre déjà que dans l'ancienne alliance, sous l'ancienne alliance, c'était évident que ces choses n'étaient que des types et des promesses et des prophéties d'une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance dont Christ a célébré avec ses disciples en disant ceci est la nouvelle alliance dans mon sang quand il partageait le pain et la coupe pour établir la table du Seigneur. Une nouvelle alliance, une alliance qui n'est pas fondée ou basée sur les sacrifices et les sacrificateurs passagers, mais par Christ et par son unique offrande. Là, tout cela a été prédit dans l'Ancien Testament, ici dans Jérémie. Et c'est ce que l'auteur aux Hébreux cite ici. Nous continuons, Jérémie 31 et le verset 31, « Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. À la loi écrite sur des tablettes, comme la loi de Moïse, mais ici, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Et quand il dit ici la loi, il s'agit de la loi accomplie. Voilà ce que l'Esprit révèle au cœur, que cette loi qui nous condamnait maintenant en Jésus-Christ est accomplie. Voilà comment cette loi maintenant était écrit au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Quand il dit tous, il parle là de tous ceux qui sont ainsi régénérés par le Saint-Esprit, le connaîtront. Comme je suis en train de prêcher maintenant, ce que je vous annonce, si l'Esprit de Dieu est en vous, ces choses ne sont pas étrangères à vos oreilles. Mais vous comprenez et vous pouvez dire avec certitude, oui, tel est mon Sauveur. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité. Comment est-ce qu'ils pardonnent l'iniquité? Par
la mort du Christ. Et cette œuvre de l'Esprit dans le cœur est la confirmation pour ceux pour qui il est mort, que Christ est mort pour eux. Voilà ma seule confiance, ma seule espérance face à l'éternité, que c'est si Christ est mort pour moi, donc je suis justifié en vie par sa mort. Et Dieu lui-même le dit, je ne me souviendrai plus de leur péché. Voilà ce qui faisait fâcher les pharisiens au temps de Christ. Parce que pour eux, pour que quelqu'un soit pardonné des péchés, il fallait certaines étapes et cérémonies et autres pour arriver au pardon, comme beaucoup prêchent aujourd'hui. Tout en disant qu'ils prêchent l'œuvre de Christ, ils ajoutent toutes sortes de choses et de gymnastiques que les gens doivent faire, des étapes pour parvenir au pardon. Mais le message de la grâce, et c'est ce que l'Esprit révèle, revenant ici dans mon texte en Hébreux 10, que cette loi, cette parole de Dieu révélée au cœur, nous affirme que notre salut a été accompli en Jésus-Christ. Et donc, grâce à lui, il n'y a plus de péché. Comme c'est écrit dans le verset 17, tiré de Jérémie, tant bien que nous avons lu ici dans Hébreux 10 et le verset 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ça, c'est vraiment une grâce. Imaginez un Dieu qui sait tout. Mais quand il s'agit maintenant des péchés de son peuple, il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Nous souvenons de nos péchés parce que nous vivons dans un corps toujours pécheur. Alors que faire à ces moments-là où nous savons que nous sommes pécheurs et que nous avons péché? Et que nous sentons cette culpabilité au fond de nos cœurs. Là encore, c'est l'Esprit en nous qui tire nos regards maintenant vers ce Sauveur, vers ce Seigneur qui est venu et qui a tout accompli. Et c'est ainsi que nous avons cette assurance qu'en effet, même si nous sommes des pécheurs, nous savons que nous avons un avocat auprès de Dieu le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est ce que Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2. Il le dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Nous ne servons pas de la grâce de Dieu pour chercher à pécher. Non. Mais il dit ici, si quelqu'un a péché, et ce mot-ci, dans le grec, signifie aussi quand. Parce que nous savons que nous allons pécher parce que nous sommes pécheurs, mais quand quelqu'un a péché, nous avons toujours un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Ah, voilà notre espoir. Ce n'est pas dans nos œuvres, ce n'est pas dans notre capacité même de vivre une vie d'obéissance devant Dieu, nous ne pouvons pas. Même où je suis là, chaque pensée que j'ai est affectée par le péché en moi, parce que je suis un pécheur dépravé, mais comment je peux me lever alors pour prêcher le pardon du péché, si ce n'est dans cette seule offrande du Seigneur Jésus-Christ, laissée en moi. Je serais hypocrite de vous annoncer que oui, je vis une vie parfaite. Je vis une vie sans péché. Je pêche à chaque moment dans mes paroles et par mes actes et certainement dans mon esprit. C'est ce que je suis toujours devant Dieu. Mais quelle grâce de savoir par l'assurance que donne le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui témoigne à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Et donc, C'est ça qui est ma confiance devant Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, ça c'est un passage qui est souvent mal compris, parce que ça parle de la confession du péché, surtout 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Dans le verset 7, c'est écrit, 1 Jean 1, 7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, qu'est-ce que c'est de marcher dans la lumière? Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Faisant Christ en nous. Et donc, nous marchons dans la lumière de ce qu'il est et ce qu'il a accompli pour les pécheurs que nous sommes. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, et là encore le mot « si » peut être compris quand, lorsque nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ça, c'est une réalité qui concerne chacun pour qui Christ est mort. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous marchons dans la cette lumière comme les pécheurs, mais c'est le sang de Christ qui a déjà purifié chacun des siens de tout péché. Et voilà le verset 9 qui est souvent mal compris, parce que c'est écrit « si nous confessons nos péchés ». Alors voilà, où beaucoup disent « ah, mais voilà, pour que le péché soit pardonné, alors nous devons à chaque reprise confesser ses péchés ». Mais ce n'est pas le sens ici. Okay? Encore, c'est écrit « si nous confessons nos péchés ». Lorsque nous confessons, et le mot « confesser » signifie de dire la même chose que l'autre. Donc, à ce qui concerne nos péchés, nous sommes en train de dire la même chose. Nous sommes en train d'agréer avec Dieu que nous sommes pécheurs. Voilà le sens. Mais il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le sens, c'est continuer à pardonner. Il est fidèle et juste à qui? À l'œuvre de Christ, au sang versé, de continuer à pardonner ceux qui, oui, ne cessent de confesser qui sont pécheurs. Et pour nous, d'accord, le sens est continuel, de continuer à nous purifier de toute iniquité. Si Christ est mort pour nous, il n'y a aucun péché, il n'y a aucune iniquité, que pour ça, Dieu dira maintenant, ah, donc, vous n'êtes plus pardonné. Donc, quelle joie de savoir que l'œuvre unique de Christ a déjà tout effacé et a tout pardonné. Et voilà ce que, revenant dans mon texte, Hébreux 10, verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Si vous me demandez comment je sais que c'est à la croix que cette œuvre a été achevée, je dirais c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'offrande à offrir à Dieu pour le péché, parce que Christ a déjà payé la dette. Alors pour cela, je le remercie. Alors, Dieu voulant, nous allons reprendre cela la prochaine fois, des versets 19 à 25, pour voir comment cette grâce, ce salut est fondé sur la grâce de Dieu et sa grâce infinie en Jésus-Christ. Alors que le Seigneur bénisse cette parole que nous venons d'entendre. Amen.